Je m'appelle Sophia, j'ai 48 ans. Tout a commencé il y a une vingtaine d'années où j'ai été diplômée, puis on m'a conseillé de faire des hautes études. J'ai fait des hautes études dans le domaine de la finance. Puis, comme tout le monde, je me suis mariée, j'ai eu quatre enfants. Puis, on a acheté une maison entre-temps, une voiture. Et puis la vie a commencé très, très stablement, très gentiment. De belles vacances en famille, les dîners en famille. Quelques moments avec les copines. Puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans la routine, dans la logistique, avec mon mari, avec mes enfants. Puis les années passent et les enfants grandissent. Puis c'est les enfants qui sont diplômés, puis il faut les accompagner vers leur route et leur monter le chemin. Essayer de les guider, les orienter. Et puis on s'entoure de certaines personnes qui sont bonnes pour nous et puis qui nous entourent, qui sont là pour nous protéger. Et puis ce qui se passe, tout doucement, il y a des choses qui me plaisent pas, que je fais quand même. Et puis d'autres que j'aimerais faire, mais que je n'ose pas faire. J'aimerais pas blesser mon entourage. J'aimerais pas les choquer. Mais c'est pas grave, je suis quand même heureuse, tout se passe bien. En tout cas, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, selon la formule populaire. Mari, enfant, voiture, vacances. Voilà. Et puis, je me rends compte que je me sens de plus en plus mal, de moins en moins bien. Je me sens de moins en moins moi-même. Je me cherche. Puis, je me rends compte que finalement, celle qui vit à l'extérieur devient de plus en plus différente de celle que je suis réellement à l'intérieur. Puis je me rends compte que j'ai mes projets, que je vis à l'extérieur avec les autres pour faire plaisir à tout le monde. Et puis je développe ma vie, mes projets dans ma tête, le soir, la nuit, dans ma salle de bain. Et puis je me rends compte que finalement je vis ma vie, celle qui me plaît dans ma tête. Oh, c'est pas très grave. Puis c'est comme tout le monde a ses rêves, tout le monde a ses objectifs, et puis tout le monde ne réalise pas tout ce qu'il a envie de faire. Voilà. C'est pas très grave. Et puis un jour, comme tout le monde le raconte dans les livres, dans les reportages, j'y croyais pas. Puis un jour, ça m'est arrivé. Un jour, je me retrouve en face de cette photo. Certains ont eu une vidéo, une phrase, un mot de trop. Et puis on se rend compte qu'on vit pas du tout la vie qu'on voulait. Puis je me rends compte en fait que ma vie appartient aux autres et qu'elle ne m'appartient plus depuis très longtemps. Et ce jour-là, j'ai passé la nuit à pleurer. Je me suis réveillée avec une tête énorme. J'ai pris un petit déjeuner et je me suis posé de longues questions. Mais qu'est-ce que tu veux, Sophia? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à être malheureuse au fond de toi? À avoir tes maux de tête, tes maux de dos. C'est plus possible. J'en souffre trop. Je n'arrive plus à faire semblant. Et ce jour-là, j'ai pris une décision, en fait. Cette phrase de trop, cette photo de trop, cette vidéo de trop, cette rencontre de trop, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que finalement, tout le monde me voulait pour satisfaire leurs désirs, leurs plaisirs. Mais personne ne voulait m'aider à ce que moi je voulais réellement être. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai quatre enfants, j'ai 48 ans. Est-ce que c'est possible de tout recommencer? Est-ce que ce serait possible de rattraper le temps perdu? Et en faisant quelques recherches, en tombant sur les bonnes personnes, en faisant des bonnes rencontres, j'ai eu le plaisir et la grande surprise enfin de souffler et de me rendre compte que oui, c'est possible. En suivant un petit accompagnement, une nouvelle route, une nouvelle façon de penser, je vais pouvoir tout recommencer, gérer mon temps et rattraper le temps perdu. Bonjour à tous, le thème d'aujourd'hui pour MMG, c'est « Pourquoi j'ai peur ?». Alors, ce thème est évidemment un océan d'informations. Il y a plus d'une centaine de portes pour pouvoir comprendre d'abord pourquoi on a peur, ensuite comment la dompter et ensuite comment en sortir. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire un petit sommaire assez succinct de pourquoi on a peur et essayer de résumer les raisons principales de comment la peur s'installe dans notre esprit. Alors, on va essayer de rendre cet épisode assez interactif en essayant de vous inviter à vous poser les bonnes questions parce qu'on trouve souvent les réponses en se posant les bonnes questions et on reste souvent perdu dans notre tête parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Alors la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai peur, et la première question qu'on va vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez savoir ça? Donc je vous invite à mettre pause à l'audio et prendre le temps de répondre à cette question, prenant un stylo et une feuille et imaginez que voilà, on a la réponse qu'on va vous la donner comme un secret, mais ici c'est qu'est-ce que vous allez en faire? C'est comme un secret, comme un trésor. Ça va servir à quoi que vous n'ayez plus peur? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Donc, faites une petite liste de choses qui changeraient dans votre vie quand vous saurez d'où vient votre peur. De retour, je vous ai laissé quelques instants pour répondre à cette question. On est reparti pour une deuxième question. Si vous savez ce que vous allez faire une fois que vous n'aurez plus peur, ou en tout cas de moins en moins peur, la deuxième étape, c'est de vous engager avec vous-même. Vous pouvez le faire là où vous êtes, installé. Mettez pause à cet audio et décidez dans votre tête, dans votre esprit, en silence, il n'est pas, même pas nécessaire de prononcer un mot, et de se dire, voilà, je m'engage à faire telle et telle action une fois que j'aurai plus peur. Donc le fait déjà de prendre cet engagement avec vous-même est tout un processus cérébral qui va dans les tréfonds de notre inconscient et subconscient, et il se passe de magnifiques choses. Je vous invite à mettre pause à l'audio et de vous engager avec vous-même à une ou deux actions que vous allez mener une fois que vous vous sentirez plus à l'aise avec la peur. La troisième étape, avant de chercher à se débarrasser de la peur, faut d'abord être sûr de savoir à quoi elle nous sert. Alors, est-ce que la peur nous sert à quelque chose? Alors, il y a trois peurs qu'on a installées dans notre éducation quand on était petit qui n'étaient pas fausses. C'était peut-être les trois seules qui étaient vraies. C'était de ne pas toucher au feu, de ne pas sauter par la fenêtre. Et la troisième, qui reste à discuter, de ne pas parler aux inconnus. Voilà les trois peurs qui ont pu nous protéger pendant toute notre jeunesse. J'ai dit que la troisième était à discuter car elle a créé chez beaucoup de monde évidemment une grande peur, un grand blocage de ne pas oser parler aux inconnus. On en discutera dans un autre épisode. Donc ne pas sauter par la fenêtre et ne pas toucher au feu sont les deux, on va dire, seules peurs qui sont vraiment réelles et qui nous servent à quelque chose. Deuxième question, avant de se débarrasser de la peur, qu'est-ce que vous gagnez à avoir peur de? Donc vous avez peur de parler à quelqu'un, vous avez peur de téléphoner, vous avez peur d'en lancer votre projet, vous avez peur de changer de boulot. Le fait d'avoir peur et de ne pas passer à l'action, aurait-il des bénéfices, aurait-il des avantages? Peut-être que oui, et nous ne sommes pas du tout dans le jugement. Donc je vous invite à mettre pause à cet audio et faire la liste des choses que vous gagnez à ne pas passer à l'action. Prochaine question. Toujours avant de se débarrasser de cette peur, qu'est-ce que vous gagnez à ne pas avoir peur? Donc, maintenant, imaginez que vous n'ayez plus de peur de... Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie quand vous aurez changé de boulot? Quand vous aurez quitté votre maison? Quand vous aurez donc déménagé? Quand vous aurez osé dire ce que vous voulez dire à cette personne? Quand vous aurez osé parler? Quand vous aurez osé appeler? Quand vous aurez osé lancer une action? Comment serait votre vie? Donc, imaginez que vous n'avez plus peur. Qu'est-ce que vous allez gagner dans votre état, dans votre esprit, pour votre famille? Donc, je vous invite à nouveau à mettre pause à l'audio et répondre à cette question. Maintenant que vous avez listé les bénéfices et les avantages que vous, dont vous pouvez jouir le jour où vous n'aurez plus peur, en tout cas le jour où vous aurez moins peur, ou le jour où vous n'aurez pas la peur qui est liée à une action bien précise, alors maintenant on va se lâcher, vous allez remettre pause à cet audio et vous allez vraiment vous faire plaisir en imaginant que vous n'ayez plus du tout de peur, aucune. Imaginez qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus le regard des autres, il n'y a plus aucune critique, aucune crainte. Si vous n'aviez pas peur, vous feriez quoi? Je vous invite à mettre pause et prendre 5 minutes à votre aise et répondre à cette question. Alors, le fait d'avoir imaginé déjà tout ce qu'on pourrait faire quand on n'a pas peur, c'est censé, cette liste est déjà censée réveiller quelque chose en nous et de se dire, voilà tous les plaisirs dont je pourrais jouir le jour où je combattrai, le jour où j'arriverai à dompter ces différentes peurs. La peur s'est installée dans notre cerveau via plusieurs canaux, on va dire. La première, c'est notre famille, notre éducation, donc il ne faut pas, attention, c'est dangereux. La deuxième chose, c'est l'éducation de la société, bon, la télévision, ça peut être l'école, ça peut être l'environnement, la famille, les gens qu'on fréquente. Et puis la troisième chose, qui est peut-être la plus grave ou la plus dangereuse, c'est notre esprit mental, mais qui est le fruit de notre éducation et de notre vie. Donc notre mental aujourd'hui nous dit attention, et si on pense ça de toi, et si on dit ça, et qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà trois choses. Notre éducation, l'environnement actuel et notre mental qui est le fruit de ces deux-là. Alors, pour essayer de définir la peur, on va essayer plutôt de comprendre plutôt le contraire de la peur. Donc, à votre avis, quelqu'un qui n'a pas peur, il a quoi, en fait? Donc, on va définir la peur comme l'absence de quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas peur a quelque chose d'autre à la place. La peur disparaît quand on a quelque chose en quantité suffisante. Alors, on a fait une conférence sur ce thème-là il y a quelques jours et les réponses qui sont venues, c'était quand on a du désir, quand on a de l'envie, quand on a de la motivation et quand on a de l'amour. Donc, on pourrait définir la peur comme de l'absence ou de l'insuffisance de désir, d'ambition, d'envie, d'amour. Je vous donne un exemple tout de suite. Vous ne savez pas nager, vous êtes habillé, vous avez votre téléphone, smartphone, dernier cri dans la poche, et votre enfant est devant vous dans une piscine et il ne sait pas nager, il est tombé, il a coulé. Qu'est-ce que vous faites? Bon, dans pratiquement 100% des cas, vous sautez et vous essayez de sauver votre enfant. Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir parce que, comme on m'a dit dans la conférence, il y a un sentiment d'urgence. Donc, quand il y a l'urgence aussi, il n'y a pas la peur. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la peur. Quand il y a une bonne raison, il n'y a pas la peur. Un autre exemple. Vous avez un mariage dans la famille qui est imprévu, qui n'était pas prévu dans votre budget. Vous êtes fauché, c'est pas le bon moment de faire un cadeau. Et finalement, vous faites un très beau cadeau. Vous n'avez pas peur de manquer d'argent à ce moment-là. Parce qu'il y a un désir suffisant il y a un amour suffisant, il y a une envie de faire plaisir suffisante. Et tout ça, c'est suffisant pour ne plus avoir peur. Alors, voyez la peur comme une chaîne qui vous attache par derrière, et votre désir, votre amour, votre envie comme quelque chose qui vous tire vers l'avant. Donc, les gens passent leur temps à essayer de défaire cette chaîne derrière, qui est très lourde, parce qu'elle est installée dans notre cerveau depuis qu'on est jeune. D'accord ? Et en fait, on pourrait prendre le process à l'envers. Si on se tourne vers l'avant, qu'on regarde le désir et l'envie de la chose, et qu'on y travaille, qu'on y pense suffisamment, en fait, la chaîne de la peur se défait automatiquement. L'exemple de cet enfant qui coule, ou de vouloir, par exemple, un parent qui se saigne pour nourrir ses enfants, qui est prêt à travailler 15 heures par jour, bah, la peur disparaît automatiquement, parce que l'amour est suffisant et dépasse le sentiment de peur. La peur vient du mental. Donc la peur est principalement, c'est une émotion, un sentiment, mais elle vient principalement de la tête, de l'esprit, qui a été installée par des paroles. Tandis que quand on suit son cœur, bah souvent, on voit des gens qui suivent leur intuition, qui suivent leur cœur, et par conséquent, on a l'impression que c'est des gens qui n'ont pas peur. Mais en fait, ils ne pensent pas à cette peur, ils pensent juste à leur sentiment d'amour, d'intensité, de désir. Comme les gens qui sont passionnés, ils n'ont plus peur. On a envie de leur dire « comment vous faites pour ne pas avoir peur ?» Mais en fait, ils ne se rendent pas compte, ils vous disent « non, je suis juste passionné par ce que je fais ». Et la passion est tellement grande que la peur disparaît. En tout cas, diminue et s'estompe. Donc, je vous invite à penser à ce qu'on vient d'expliquer, de mettre pause à cet audio en refaisant une petite liste, en disant « j'ai peur de » égale « je n'ai pas assez d'amour, d'envie pour ». Faites une liste de 5-6 choses comme ça. Le fait de reconnaître qu'on a envie, par exemple, de changer de boulot, mais qu'on a peur. Le fait de reconnaître que j'ai peur de changer de boulot parce que je n'ai pas assez envie ou parce que je ne suis pas suffisamment mal dans mon boulot actuel, c'est ça qui définit ce qu'on appelle aujourd'hui la peur. Donc le fait de reconnaître votre absence ou votre insuffisance d'envie, de désir, d'amour, va vous aider à défaire ce nœud qui a été créé, qu'on appelle aujourd'hui la peur. Parce que n'oublions pas que la peur est installée dans notre conscient, dans notre inconscient, mais aussi dans notre subconscient. Donc il y a énormément de peurs dont on ignore l'origine. Donc ici, le travail qui est très, très, très initiatique, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a peur et d'essayer de comprendre ce pourquoi on va le comprendre en cherchant d'où vient cette insuffisance d'amour ou d'intensité ou de désir. Donc je veux changer de boulot ou je veux déménager. J'ai peur, ok, mais si je voulais suffisamment, si j'en avais du désir suffisant, la peur partirait. Donc je dois chercher les bonnes raisons de mon amour, de mon désir pour faire l'action. Donc, les personnes qui ont peur, évidemment, ça se travaille sur toute une vie. La première solution, c'est de trouver suffisamment de passion, de désir, de plaisir, d'envie. Et par magie, la peur disparaît. La deuxième solution, c'est de fréquenter, de faire partie d'un réseau ou d'avoir un mentor, une personne qui a beaucoup moins de peur que vous. Le fait de fréquenter ces personnes, elles vous contaminent. Quand elles vous contaminent et elles vous aident à prendre des décisions, en fait, vous prenez des décisions, vous passez à l'acte par procuration. Ça veut dire que cette personne vous confirme et vous convainc qu'il n'y a pas autant de peur que ce que vous pensez. Et sur le moment même, vous passez à l'action sans votre peur. Mais vous passez à l'action avec la confiance de l'autre. Et donc, ça vous permet d'avancer et de tester, d'expérimenter le passage à l'acte sans peur. Et ça devient après un plaisir, un jeu. Et après, on s'habitue avec le temps. On prend de l'expérience avec ces personnes qui nous entourent et on devient de plus en plus une personne qui a du désir, qui a de l'envie et qui a de moins en moins peur. Bonjour à tous, aujourd'hui pour MMG, on va parler dans cet épisode de la procrastination. Alors pourquoi je reporte indéfiniment ? Alors c'est l'histoire de Katia qui veut lancer son projet de confiture et qui voudrait organiser une petite rencontre pour proposer ses différents produits. Confiture, miel et tout d'autres produits naturels à manger. Et donc, elle est sur le pas de pouvoir organiser une petite rencontre pour les personnes qu'elle connaît de son entourage. Et elle se dit qu'elle va déjà commencer à en parler à son réseau. On est au mois de juin et elle téléphone à son premier... Rami, avec qui elle est en contact assez souvent, Pierre, elle l'appelle, ils ont une discussion, et puis elle lui dit, écoute Pierre, tu sais, mon petit projet sur mes produits alimentaires, voilà, je vais organiser une rencontre ici mi-juin, et je vais inviter pas mal de personnes. Puis Pierre lui dit, écoute, franchement Katia, laisse tomber, c'est vraiment pas le moment, là on est occupé... Avec les vacances, puis c'est la fin de l'année, puis tout le monde pense aux vacances, puis les gens, ils n'ont pas la tête à se déplacer ou à venir parler de miel ou de confiture ou de quoi que ce soit. C'est vraiment pas le moment. Moi, je te conseille vraiment de te concentrer sur septembre et organise-nous quelque chose de sympathique, on sera tous là. Donc Katia se dit, oui, il a raison, pourquoi pas, je vais organiser ça pour rien, puis je reporte en septembre. Donc l'été passe, Katia fait quelques-unes de ses actions entre-temps, mais n'a pas lancé l'action qu'il a tenu à cœur. Donc septembre arrive, la rentrée est en cours, elle rencontre Caroline dans la rue et Samia, ses deux copines, et elle leur dit, ah, bah, les filles, ça fait plaisir de vous rencontrer par hasard, j'ai pas eu le temps de vous appeler ces dernières semaines, écoutez, je voulais organiser ce mois-ci une petite rencontre pour partager un petit peu tous les nouveaux produits que je mets sur le marché et je voulais vous en parler. Puis là, Samia et Caroline qui lui disent, écoute, vraiment, c'est pas le moment, là, c'est les gens sont occupés, c'est la rentrée scolaire, les gens sont occupés avec les enfants, les achats de produits, pourquoi tu fais pas ça en octobre ? À partir du 10, les gens en général sont stables, ils ne pensent plus à la rentrée. Elle dit, bah écoutez, oui, de toute façon, je suis pas à 3 semaines près, ok, moi, de toute façon, je fais ce que j'ai à faire de mon côté. On se rappelle mi-octobre. Puis mi-octobre arrive tout doucement, elle fait sa petite liste de contacts, elle veut appeler pas mal de ses amis, puis elle appelle une amie à elle, Aline, qui est jeune, qui a quelques enfants aussi, et elle en discute de son projet. Elle lui dit, écoute Aline, voilà, moi je voulais préparer une petite rencontre, je voulais appeler Caroline, Samia, Pierre, enfin un peu tout le monde, et vous parler de mes produits. Et puis là, elle lui dit, écoute, là c'est mi-octobre, là c'est la fête, tu sais, les fêtes de Halloween, on a les costumes à préparer pour l'école, enfin les gens sont occupés, en plus vraiment c'est une sale période, puis il fait un petit peu froid, les gens n'auront pas envie de se déplacer, de venir. Moi je te propose franchement, laisse à la veille des fêtes de Noël et tout, les gens vont venir, vont acheter plein de produits et tout, et organise-nous une bonne rencontre, tu vas voir, ça va être top. Katia se dit, ben oui, ok, d'accord, il n'y a pas mort d'homme, hein. On attendra début décembre. Puis début décembre arrive, elle se dit que c'est la bonne période, qu'elle va finalement rattraper tous les mois où elle n'a pas pu faire de présentation. Et là, elle se dit qu'elle va commencer à envoyer des messages à ses amis, que c'est le moment de vendre un maximum de produits. Et puis là, elle tombe sur une autre amie, Nathalie, elle dit, salut, tu vas bien ? Écoute, j'ai vu les copains, je les rencontre tous un peu de temps en temps. Voilà, on a parlé de mon petit projet et pour moi, c'est l'occasion de vous rassembler tous. Et là, Nathalie lui dit, écoute, franchement, c'est vraiment pas le moment en décembre. Les gens sont occupés avec les fêtes de Noël. Puis tu sais, les gens ont déjà leur liste de cadeaux qui sont prêtes. Enfin, ils sont déjà assez concentrés sur ce qu'ils veulent faire. Moi, je pense que tu devrais laisser à la rentrée. Les grosses dépenses sont passées et là, on va se concentrer. Puis Katia suit le conseil de Nathalie. Naturellement, elle fait confiance à Nathalie. Elle se dit oui, qu'elle a raison, que c'est pas la peine d'organiser quelque chose qui ne donnera pas de grands résultats. Puis janvier est passé, et puis elle était assez occupée, Katia, avec d'autres choses, donc février est passé, on est déjà presque en mars, et là elle tombe sur une brocante où elle rencontre deux, trois de ses amis, elle leur dit, écoutez, c'est le moment, il fait beau, le printemps, on va organiser une petite rencontre, c'est le moment de tous se rassembler. Puis là, ses amis lui disent, écoute, là, on est désolé, mais c'est la période du ski, les gens partent, franchement, il n'y aura personne pour l'instant, on se voit en avril, après les vacances de Pâques, ce sera bien. Et Katia commence à être un petit peu déçue, elle dit, le temps passe, j'ai attendu, mais bon, allez, je dois rester calme et zen, c'est pas grave, je suis pas un mois prêt, je vais attendre. Puis avril arrive, et là, elle retombe sur son amie Samia, Nathalie, et Caroline, et puis ils discutent, elle dit alors t'as fait ton après-midi, tu l'as organisé, elle dit mais non, écoutez, on en a discuté, finalement je vais la faire maintenant, au mois de mai, c'est l'été, c'est top, c'est l'occasion. Et là les filles disent écoute, c'est impossible, maintenant c'est très bien que c'est la veille des examens pour les enfants, les gens sont occupés, c'est vraiment pas le moment de faire du petit marché ou de découvrir des produits, les gens n'auront pas la tête à t'écouter ou même à se déplacer, donc ils seront pas prêts, il faut vraiment que tu laisses passer cette période d'examen. Puis Katia se retrouve un petit peu étonnée, puis elle se dit écoute, au pire, si j'attends, qu'est-ce que je vais attendre quelques semaines, on sera au mois de juin. Et puis Katia rentre chez elle et elle prend son carnet de notes et puis elle parcourt les feuilles et puis elle se rend compte que la première fois où elle a eu cette idée d'organiser cette rencontre avec tous ses amis, c'était au mois de juin de l'année passée. Et qu'au mois de juin de l'année passée, on lui a dit que c'était pas du tout la période parce que les vacances approchaient et qu'on n'aurait pas la tête à écouter la présentation de ses produits. Et en réfléchissant un petit peu à tout ce qui s'est passé, elle s'est en fait rendue compte que chacun de ses amis, qui l'aimait beaucoup, lui avait donné un conseil en lui demandant de reporter, parce qu'en fait, chacun avait tenu compte de ses propres priorités. Et c'est comme ça que Katia a reporté son projet, son action, en fonction des priorités des autres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir maléfique des agendas. C'est l'histoire de Kate. Kate était quelqu'un de très organisé, qui achète énormément de carnets et d'agendas. Elle a un petit agenda dans son sac, elle a un grand agenda dans son bureau, elle a un moyen agenda dans son bureau à la maison. Et Kate note tout ce qu'elle peut noter dans son agenda. Mais le problème, c'est que Kate se rend compte qu'en fait, elle n'est pas très productive, qu'elle ne fait pas énormément de choses, qu'elle perd souvent le moral, qu'elle est démotivée, alors qu'elle a de beaux agendas, qu'elle a payé cher, avec de beaux stylos, où elle note tout ce qu'elle voudrait faire. Un jour, Kate s'est rendue compte que son agenda allait la tuer. « Mon agenda m'a tuée », c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi un agenda ? Un agenda, c'est un petit carnet avec un calendrier, avec les dates par jour. Certaines sont en semainier, donc vous avez deux pages qui représentent une semaine. Certains, on retrouve une semaine par page. Et donc, sur deux pages, on a 15 jours. Ça veut dire qu'en quatre pages, on a un mois qui passe. On y note les anniversaires, les fêtes, les invitations, les mariages, les rendez-vous avec les amis. On note les congés du travail. On note les rendez-vous administratifs, les rendez-vous du docteur. On note tout ce qui est proposé par la société, tout ce qui est extérieur à nos propres choix. Ensuite seulement, on commence à noter ce que nous, on a envie de faire, ce qui est interne à nous, ce qui est propre à notre volonté. On va noter une demi-journée de congé pour chercher un nouveau boulot ou pour démarrer un projet. On va noter quelques rendez-vous professionnels, rencontrer des nouvelles personnes qui pourraient nous mettre sur une piste. Pour trouver un nouveau business. J'ai noté mes recherches. J'ai trouvé un super site qui me propose des idées de projet. J'ai noté les actions que j'allais faire à la maison ou à l'extérieur. J'ai noté mes objectifs, ce que je voudrais faire. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe ? On a tous bien tout noté. Et un jour, je m'assis dans mon bureau et je feuillette cet agenda et je parcours les feuilles blanches, vides, rien de noté, à part les anniversaires, les congés officiels. Je feuillette les pages, je réalise que j'ai pas fait grand-chose et je vois ça qui m'est envoyé en plein dans la figure, noir sur blanc. Des journées, des semaines, des mois vides, à part les anniversaires et les docteurs. Bon, enfin, bon, quand j'étais salariée, au moins je paniquais moins, je stressais moins. Bah, parce que je travaillais de 9h à 18h. Mais là maintenant, j'ai pris une pause carrière, je suis à la maison, je travaille sur mon projet. Mais c'est pas possible, mes journées partent. Et je vois tous ces espaces vides. Et en fait, ces espaces vides, ça me rappelle en fait à quel point je suis pas organisée, à quel point je suis peu consciencieuse, tout le temps que j'ai perdu. Et ces espaces qui sont remplis, en fait, je me rends compte que c'est pas grand-chose, c'est pas ce que moi je voulais faire. Ça, c'était des choses qui étaient externes. Donc, pas terrible. Qu'est-ce qui se passe quand on a un agenda comme ça ? Eh bien, on voit que le négatif. On perd sa motivation. Le positif n'apparaît pas du tout. On perd confiance en soi. On a cette petite voix dans le mental qui nous dit « t'es capable de rien ». T'arrêtes pas de dire que tu vas faire des choses, puis finalement tu fais rien. Ah, et devinez quoi ? Ben, l'environnement toxique, ben, il est là, il est présent. Oh, c'est bon, arrête avec tes agendas. De toute façon, tu fais rien, fais comme tout le monde. Travaille et arrête d'essayer de te dépasser. Et là, on tombe dans un cercle vicieux. Déprime, découragement, on jette les agendas. On les utilise comme brouillon pour les enfants, pour le conjoint. Et quand on les ressort, on est encore plus déprimé parce qu'on se rend compte qu'on n'a rien foutu ces 6 derniers mois ou l'année qui suit. Et puis dans ce grand tiroir, je retire les agendas des 3-4 dernières années. Et je me dis que ça fait déjà 3-4 ans que je traîne, que je veux faire des choses et que j'ai rien fait. Mon manque de discipline me pousse encore à moins agir. Et il me pousse encore à rester au lit, à me paralyser, à lever les yeux au ciel. C'est incroyable. Qu'est-ce que ces feuilles blanches ont un effet négatif sur moi ? Pourtant, j'en achète à chaque fois en décembre et en septembre. Et je suis motivée et je reprends tout depuis le début. Je comprends pas. C'est quoi la solution ? Tant pis, je me laisse porter. Je fais comme tout le monde, hein. Je vais faire ce que j'ai à faire. Suivre la routine quotidienne et puis on verra. Oui, parce qu'en fait, ces carnets de pages blanches, qu'est-ce qui se passe ? Elles ne m'aident pas, elles me rappellent. Cette feuille blanche me dit « t'es nul, t'as perdu tout ce temps ». Kate, moi et vous tous, on est passés par là. Et on s'est rendu compte qu'on a perdu beaucoup d'années à être déprimés. Si on arrêtait d'avoir des feuilles blanches qui nous rappellent à quel point on n'est pas organisé, c'est pas la peine de nous le répéter. Et si on se concentrait sur les petits efforts qu'on fait ? Alors c'est quoi la solution ? Alors la solution, c'est d'acheter un carnet avec des pages blanches où il n'y a plus de date, il n'y a plus de jour, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus rien. C'est nous qui allons décider du temps. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais noter aujourd'hui les choses que je voudrais faire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Certainement, 3 jours, il y aura eu des imprévus. Je vais tomber malade ou je vais être trop occupée au boulot si je travaille. Et qu'est-ce qui se passe là ? Je ne laisserai pas 3 feuilles vides, blanches. Quand je reviens 4-5 jours après, je passe à la page suivante et je note ce que je dois faire. Et ainsi de suite. Et donc sur la première page, j'ai le premier jour. La deuxième page, j'ai le 5e jour. La troisième page, j'ai le 15e jour. Mais on s'en fiche des jours où on n'a rien fait. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on a fait. Et donc là, je suis contente et je vois 15 pages de mon carnet blanc remplies. Ça a pris peut-être 3 mois pour les remplir, mais j'ai fait quelque chose, j'ai avancé. Et là, je me rappelle à quel point je suis active, Je passe à l'action. Je suis super contente. Mon carnet est rempli. Il y a des choses qui se font. Oui, il y en a d'autres qui ne se sont pas faites. Mais on les oublie. Il faut les ignorer. Et donc, je me focus sur les bonnes nouvelles. Je ne vois que ce qu'il y a de bon. Et devinez quoi ? Ben, mon esprit, mon cerveau, qu'est-ce qu'il croit ? Ben, il croit que je suis quelqu'un de super organisé. Quelqu'un de productif. Quelqu'un qui ne perd jamais le temps. Et donc, il se met à activer. Des petits agents intelligents dans notre cerveau qui nous disent « Mais c'est quelqu'un d'organisé et de productif. On va l'aider. » Et le corps complet, les petites cellules, les dernières, se mettent à nous aider à être encore plus productifs. Parce que le corps, c'est aussi comme un petit enfant. Hein. Si on lui dit qu'il a bien travaillé, ben, il continuera à bien travailler. Et devinez ce qui se passe. Motivation, joie, confiance en soi, fierté. Et on continue. Et là, on est sorti du cercle vicieux pour rentrer dans le cercle vertueux. Notre esprit sait, croit que je suis productive et bien organisée. Mon agenda, pareil. Et devinez quoi ? Eh bien, je vais me répéter pendant quelques semaines que je suis quelqu'un d'organisé et de productif. Et c'est ce qui va finir par arriver. La psychologie et la science, signée depuis toujours. Bye bye pour un autre épisode.